Le bronze que nous avons sous les yeux rend cela sensible rien que par sa forme et sa solidité. Le maréchal est à pied, calé sur le sol, la tête haute, les yeux au loin, vêtu du lourd manteau à pèlerine qui sera pour la légende sa redingote grise, et il se dresse seul en cette ville de Chantilly, devant cette maison du Grand Condé, d'où il dirigea les longues batailles où des millions d'hommes se mesurèrent. En cette ville si délicieusement française, que d'autre gloire, grand illustre, gloire militaire avait illustré. En cette ville si délicieusement française, que d'autres grandes gloires militaires avaient illustré. Dans ce séjour du repos et de la joie, le commandant en chef des armées françaises se fixa quand la France fut envahie et que Paris fut menacé. Ce choix était déjà par lui-même une décision de haute portée militaire. Il marquait ce début juste d'où dépendent tant de suites. Le grand chef établissait son état-major, non dans quelques lointains arrières, comme le commandement allemand, mais au plein cœur de ses armées, non dans Paris, mais à proximité de Paris, non vers la Loire, mais vers à l'est. Tout un système réfléchi était inclus dans cette détermination. Rappelons maintenant, car rien n'importe davantage, qu'au moment où la lutte formidable s'engageait, nul capitaine, pas même Napoléon, n'avait commandé de pareille masse. Personne n'avait mis en mouvement de si énormes machines. À la lettre, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Et voilà que, dans la première surprise, la première ligne ayant cédé, il fallait déterminer le sens futur de cette guerre sans pareil et prendre un ensemble de décisions qui, engageant tout, avaient à prévoir et à découvrir de loin, par-dessus les temps et les plaines, les engagements et les événements qui, un jour, forcerait un ennemi enivré de sa puissance à se sentir vaincu et à capituler.